Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Nous nous préparons à célébrer quatre fêtes automnales chargées de sens. De quoi avons-nous besoin pour célébrer ces fêtes majeures dans son plan? De connaissances, certes, mais surtout de la bonne attitude, n'est-ce pas? Nous devons mentalement, physiquement et spirituellement nous y préparer. Telle est notre mission individuelle. Il y a quelques mois, nous avons célébré la Pâque. Notre responsabilité pour célébrer la Pâque était le renouvellement d'un repentir profond et sincère. La confirmation de notre obéissance au Père qui nous a été, auquel nous avons été réconciliés grâce à Christ qui a payé l'amende du péché pour nous. Et cela aussi a été le moment pour nous de renouveler cet engagement dans la voie chrétienne. Nous avons célébré la fête des pains sans levain, puissante évocation que nous avons également la responsabilité d'ôter le levain ou péché de nos vies. Purification également rendue possible par Christ. Nous avons la responsabilité et non les moyens ou la force de faire ces choses, d'ôter nous-mêmes le péché de nos vies. Et nous avons besoin de faire appel à Christ pour cela. Quelques semaines plus tard, nous avons célébré la Pentecôte, ou fête des prémices, symbolique de la puissance du Saint-Esprit exigée de chacun de nous pour vaincre notre nature humaine et achever notre unité avec Dieu. Notre responsabilité, inviter Dieu dans notre vie de tous les jours, capituler entièrement devant lui. Nous ne sommes qu'à moitié créés. Et pour que la création divine soit achevée en nous, nous devons assumer la responsabilité de choisir Dieu en tant que notre sauveur personnel et grand roi à venir. Et nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous guider en tout. Notre responsabilité, faire appel au Saint-Esprit, fournir de gros efforts et nous fier à Dieu. La prochaine fête de l'Éternel que nous célébrerons cette année le 10 septembre sera la fête des trompettes, préfigurant le retour de Christ ici-bas, lors de son second avènement pour gouverner le monde. Notre responsabilité est d'entendre le son du chauffard et de nous préparer convenablement afin de pouvoir être transformés en êtres spirituels et régner avec Christ quand il reviendra. Le 19 septembre, nous célébrerons le jour des expiations, fête nous rappelant que Christ a fait l'expiation de nos péchés, mais aussi que Satan porte une énorme responsabilité dans la méchanceté si répandue sur la terre. Notre responsabilité sera de nous humilier en jeûnant, en ne mangeant rien et en ne buvant rien pendant 24 heures, symbole de notre soumission à Dieu et du fait qu'un jour nous n'aurons plus besoin de nourriture pour vivre, pour continuer à vivre. Notre responsabilité est aussi d'être unis à Dieu, de devenir un avec lui, un avec notre Père céleste. Satan est grandement responsable de nos péchés, il va être écarté. Du 24 au 30 septembre, nous célébrerons l'époque glorieuse où les 6 premiers jours de la semaine millénaire du plan divin alloué à l'homme pour agir à sa guise s'achèveront, laissant la place au millénaire, au royaume de Dieu, où notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, né de l'Esprit, sera d'aider le Christ à rentrer la grande moisson d'âmes de ceux qui vivront pendant le millénium. Une époque glorieuse, de paix universelle, où la nature de l'homme sera différente. Les hommes vivront en harmonie les uns avec les autres et avec leur Créateur. Il n'y aura plus de guerre, plus de maladies, ni aucun des maux affligeant le monde d'aujourd'hui. Le 1er octobre, nous célébrerons le dernier grand jour ou huitième jour, symbole de la gigantesque moisson d'âmes comprise dans la deuxième résurrection, quand des milliards d'individus, des milliards d'êtres humains ayant jamais vécu et n'ayant jamais eu la connaissance de la vérité et du plan divin, auront, eux, la responsabilité de choisir, à leur tour, de s'engager dans la voie divine pour pouvoir, eux aussi, être convertis, recevoir le Saint-Esprit et avoir la possibilité de devenir aussi enfants de Dieu, esprit immortel dans le royaume de Dieu. Notre responsabilité sera de seconder Christ lors de cette époque de jugement final, à l'issue de laquelle ceux faisant partie de la deuxième résurrection deviendront à leur tour des êtres spirituels, des enfants de Dieu immortels dans le royaume de Dieu, ou seront détruits définitivement s'ils refusent cette offre divine de changer. Quand Christ a parlé de serviteurs devant être occupés à son retour, quand il a parlé du figuier, de la lumière que nous devons émettre, de la réaction des invités à un banquet, quand il a parlé d'un bon samaritain, du grain de sénevé, du trésor caché, des ouvriers dans la vigne, de l'habit neuf et des outres neuves, de la perle de grand prix, du pharisien et du publicain, du fils prodigue, du riche et de Lazare, des brebis et des boucs, des mauvaises herbes dans le champ, des mines, des talents, etc. Ben, il parlait de nous. Il nous parlait à nous, frères et sœurs. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, disait Salomon, disait l'Ecclésiaste. Le moment est venu pour nous de nous préparer spirituellement à observer les fêtes automnales. Il est facile de rentrer dans une routine et dire « Ah, on a déjà fait ça avant », alors on se retrouve finalement du jour au lendemain à observer une fête sans réellement y avoir réfléchi. C'est facile de faire cela. Mais vous et moi, nous avons le devoir de nous préparer pour tirer le maximum de profit de ces fêtes. Si, comme David, l'Éternel est notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, notre appui, notre abri, notre bouclier, la force qui nous sauve, notre haute retraite, et même si notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Nous cherchons à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin d'être enracinés et fondés dans l'amour, afin que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est à cela que nous devons penser quand nous allons observer ces fêtes, et même avant que nous les observions. Quelle est notre attitude? Si nous désirons, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui nous croissions pour le salut, comme disait Paul, en professant la vérité dans l'amour, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Là, nous nous rapprochons de ces fêtes et de la pensée de notre Père Céleste. Nous devons avoir la bonne attitude, c'est important. Peut-être que nous n'y avons pas beaucoup pensé au fil des années. Mais maintenant, à mesure que nous nous rapprochons du retour de Christ, nous avons besoin de réellement appréhender la signification de ces jours. Ainsi donc, comme nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous marchons en lui, n'est-ce pas? Enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui nous ont été données. Et nous abondons en actions de grâce, nous étant dépouillés du vieil homme, de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Est-ce que cela nous décrit, frères et sœurs? Je l'espère. Fondé sur les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Christ est le cep, nous sommes les sarments. Celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous préparer pleinement pour les fêtes automnales, c'est porter du fruit, frères et sœurs. C'est prendre au sérieux ce que notre Père Céleste nous dit et désirer être pleinement impliqué dans son plan. Le temps est court, frères et sœurs. Nous devons nous approcher le plus possible de notre Père Céleste et bien appréhender ses pensées. À ses yeux, notre attitude lors de ces fêtes est significative. Ferons-nous comme David ? Reportons-nous à psaume 119 et le verset 59. Psaume 119. Psaume 119 et le verset 59. « Je réfléchis à mes voies, disait David, et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Le moment est venu pour nous, alors que nous nous préparons à ces fêtes automnales, le moment est venu pour nous de réfléchir à nos voies. Est-ce que nous sommes surexcités par cette idée, par exemple, que Christ va revenir? Est-ce que nous attendons impatiemment son retour? Ou est-ce que nous avons un peu peur, parce que nous savons que nous ne sommes pas tout à fait prêts? Quelle est notre attitude? Est-ce que nous nous réjouissons à fond? Pensons que nous avons besoin de cette délivrance? Quelle est notre attitude? À nouveau, c'est facile de rentrer dans une routine, de faire les choses comme on les fait chaque jour. Mais Dieu attend plus de nous. Nous devons réfléchir à nos voies. Qu'est-ce qui, dans ma vie, a encore besoin d'être changé? Quels sont les défauts que j'ai encore, ces péchés qui s'accrochent à moi et que je dois vaincre? Est-ce que nous réfléchissons à ces choses? Est-ce que nous dirigeons nos pieds vers les préceptes de l'Éternel, comme David le faisait? Nous interrogeons-nous continuellement pour savoir quels sont les domaines dans notre vie qui requièrent notre attention? Vous et moi, nous devrions nous connaître. Nous devrions savoir quels sont nos points faibles, parce que c'est là que Satan peut nous attaquer. Oh, il sait très bien quels sont nos points faibles, il les connaît très bien. Savez-vous quels sont vos points faibles? Job chapitre 12, verset 23. Job chapitre 12 et le verset 23. Quel est le nombre de mes iniquités? Le savons-nous? Est-ce que nous faisons une évaluation de nous-mêmes? Voilà des fêtes qui sont chargées de sens, qui ont énormément de signification. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Est-ce que c'est ce que nous demandons à l'Éternel? Nous nous préparons pour le royaume, nous nous préparons pour aider Christ, le seconder dans le royaume. Serons-nous prêts? Avant la Pâque, chaque année, nous effectuons un bilan spirituel. Mais si nous sommes zélés, si nous prenons notre appel au sérieux, nous nous examinons souvent, pas seulement lors de la Pâque, mais souvent pendant l'année. Nous faisons une sorte de bilan spirituel. Il est bon de faire un bilan spirituel régulièrement, peut-être chaque mois. Et nous dire, mais est-ce que je suis en bonne voie de résoudre certains des problèmes que j'ai? 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, nous connaissons le passage, mais il s'applique à nous, pas seulement lors de la Pâque, mais à tous les moments de l'année. 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins que, peut-être, vous ne soyez désapprouvés. Quand nous célébrerons les 4 prochaines fêtes de l'Éternel, qu'en tirerons-nous? À nouveau, il est facile de se retrouver dans une sorte de routine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que j'entends un message de la part de l'Éternel, je prends toujours des notes. Après toutes ces années, je prends toujours des notes parce que j'apprends toujours. Posez-vous la question, frères et sœurs, est-ce que vous apprenez toujours? Ou est-ce que vous avez atteint un plateau où vous êtes là depuis un bout de temps et vous ne bougez pas et votre vie spirituelle ne bouge pas? Nous devons croître, nous développer, bien nous connaître pour savoir quels sont nos points faibles, quels sont nos péchés, il faut les appeler péchés. Nous ne devons pas être sur un plateau. Si nous sommes sur un plateau trop longtemps, bon, il y arrive que nous soyons sur un plateau, mais il ne faut pas que nous restions longtemps sur ce plateau. Nous devons croître. Nous devons nous examiner. Ces fêtes ont une profonde signification, mais vous savez, ces fêtes sont les fêtes du cœur, finalement. C'est comme ça que notre Père Céleste veut que nous les voyons, que nous soyons impliqués dans ces fêtes, que nous ayons notre cœur dedans. Et pour cela, il faut se préparer. Il faut que nous soyons d'accord avec notre Père Céleste, que nous l'approuvions, mais aussi que nous soyons enthousiasmés et puis ravis. Nous célébrons les fêtes de l'Éternel parce qu'il nous l'ordonne, parce que Dieu nous l'ordonne, et parce que c'est seulement en les observant que nous pouvons comprendre le plan magistral que notre Père Céleste accomplit ici-bas. Mais notre Père Céleste attend plus de nous. Il attend plus qu'une simple obéissance. Il veut aussi que nous soyons émotionnellement, pourrait-on dire, impliqués dans ces fêtes. Pour ce faire, nous devons commencer par nous revêtir d'humilité. Galates chapitre 6, verset 3. Galates chapitre 6 et le verset 3. Je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir trop d'humilité. La bonne sorte d'humilité, j'entends. Et évidemment, la fausse humilité. Mais nous sommes, nous autres humains, plutôt présomptueux. Nous nous prenons pour ce que nous ne sommes pas souvent. Galates chapitre 6, verset 3, Paul parlait de cela. Et il parlait de cette attitude que nous avons besoin d'avoir face à ces fêtes, à ces mémorials, ou ces mémoriaux, pourrait-on dire, qui reviennent et qui sont là pour nous enseigner les pensées de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ. Galates 6, verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il nous remet à notre place. Il croit être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, c'est toute une déclaration, n'est-ce pas? Il s'abuse lui-même, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. À nouveau, nous sommes responsables individuellement des choix que nous faisons. Le monde ne comprend pas cela. Le monde essaye toujours de jeter le blâme sur quelqu'un. « Ah, j'ai fait ceci parce que quelqu'un d'autre m'y a poussé, parce que les circonstances m'y ont poussé, etc. » Nous devons être mûrs au point d'accepter notre responsabilité. Nous ne sommes pas à la hauteur. Et nous péchons, nous sommes faibles. Nous devons accepter cela. Mais sommes-nous activement impliqués dans notre formation spirituelle? Luc chapitre 12, verset 42. Luc chapitre 12 et le verset 42. « Le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Il y en a qui pensent que l'œuvre divine s'est arrêtée il y a quelques années. Un verset comme cela, un passage comme cela montre que le Seigneur doit nous trouver occupés à son arrivée et non pas dire « Ah ben oui, ça c'est fini, ça fait des années que c'est fini. Hein. L'œuvre a déjà fait ce qu'elle devait faire, maintenant on n'a plus qu'à attendre. » Oh non, ce n'est pas le cas. Si le Saint-Esprit agit en nous, s'il agit en vous, frères et sœurs, vous savez pertinemment que Christ ne parlait pas ici seulement des ministres, mais de tous ses disciples. Vous y compris, moi y compris. Verset 46 à 48. Verset 46 à 48. Le maître de ses serviteurs viendra le jour où on ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas reçu beaucoup? Nous avons reçu beaucoup. Vous et moi, pensez juste au Saint-Esprit. C'est ce trésor inimaginable, cette force, cette puissance, cette pensée divine, c'est la substance même de Dieu dans l'univers. Cette substance et cette puissance nous a été accordée. Ouah, quel don merveilleux! Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas reçu grand-chose? Et nous avons tous des talents spirituels, des dons spirituels, et des dons physiques aussi que nous pouvons mettre à profit pour les autres. À nouveau, est-ce que nous nous connaissons? J'espère. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage celui à qui l'on a beaucoup confié. Notre Père Céleste nous a beaucoup confié. Nous sommes tous bénis et nous devons être des économes fidèles, des gestionnaires fidèles de ce qu'il nous a confié. Spirituellement parlant, avons-nous mûri? Les fêtes que nous allons célébrer vont-elles s'inscrire dans une sorte de routine à nouveau ou vont-elles nous propulser à un niveau supérieur d'implication et de conviction? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 1. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, et ici il est question de devenir un homme spirituellement parlant, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Paul parle de manière spirituelle ici. Il ne parle pas seulement de l'enfance et de l'âge adulte. Il essaye de nous dire quelque chose ici. Avons-nous mûri? Ces fêtes représentent une connaissance de base, mais elles devraient aussi être des fêtes du cœur, à nouveau, des fêtes du cœur. Nous devons être impliqués dans notre cœur, dans ce que nous allons faire. Elles devraient nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Tant elles sont merveilleuses et évocatrices des pensées inouïes de notre Créateur. Nous savons, nous avons une certaine connaissance, mais ces fêtes touchent-elles notre cœur? La compréhension du plan divin est révolutionnaire. Seulement une minorité d'êtres humains sur cette planète y croit. Et cette connaissance va tellement à l'encontre de la logique humaine qu'elle est littéralement explosive, explosive. Et comme tout ce qui est explosif, une certaine sagesse s'impose. Si vous mélangez de l'hydrogène et de l'oxygène et provoquez une petite étincelle, vous avez une explosion et vous risquez de provoquer de gros dégâts. Il est aussi dangereux de mélanger des bases et des acides, si vous connaissez un peu la physique et la chimie. Il y a des produits dangereux, comme les explosifs, les gaz inflammables, les aérosols inflammables, les gaz comburants, les gaz sous pression, les liquides inflammables, les matières solides inflammables, les substances et mélanges autoréactifs, les liquides pyrophoriques, les matières solides pyrophoriques, les substances et mélanges auto-échauffants, les substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, des liquides comburants. Il y a des matières solides comburantes, des peroxydes organiques et des corrosifs pour les métaux. On me dirait, oh, tout ça c'est un peu technique quand même, ça, alors là vous me perdez avec cela. C'est simplement essayer de trouver un exemple ici. Tous ces produits posent des dangers pour la santé, n'est-ce pas? Ils ont une toxicité aiguë ou sont des corrosifs ou des irritants pour la peau. Ils peuvent provoquer des lésions oculaires graves ou une irritation oculaire, provoquer une sensibilisation respiratoire ou cutanée. Ils peuvent causer des mutations sur les cellules germinales et parfois cancérigènes et ont une certaine toxicité pour le système reproductif, une toxicité spécifique pour un organe cible, etc., etc., etc. Il y a une certaine analogie dans tout cela. Ils peuvent représenter un danger pour le milieu aquatique ou pour la couche d'ozone. Bon, il s'agit là d'exemples physiques prouvant que la connaissance ne suffit pas, qu'il faut être prudent dans notre manière de manier cette connaissance, n'est-ce pas? La connaissance qui nous a été confiée, ce que nous avons reçu, combien est-ce que nous avons reçu? Et prudence avec les mélanges, n'est-ce pas? Avons-nous gardé un profond respect, une crainte respectueuse pour tout ce qui touche au plan de Dieu? À nouveau, il est facile de sombrer dans une routine, d'oublier un peu, de cesser d'être zélé. Avons-nous perdu notre premier amour? Job chapitre 28, verset 28. Job 28, 28. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, je pourrais dire rester éloigné de l'explosion ou du danger, c'est l'intelligence. Psaume 111, verset 10. Psaume 111. Il est facile de s'habituer, il est facile de se familiariser de trop avec toutes ces choses. Est-ce que nous sommes impliqués? Nous devons faire un effort spécial pour rester impliqués, frères et sœurs. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Quiconque observe les fêtes de l'Éternel comprend le plan divin de salut pour l'humanité. Cessez de les observer et vous perdrez la compréhension de ce plan, comme beaucoup de personnes que nous avons connues jadis, qui observaient ces fêtes avec nous, qui les connaissaient et qui ont cessé de le faire. Pour eux, pour ces personnes, elles ne signifient plus rien. L'obéissance précède l'intelligence. Mais notre obéissance doit être celle du cœur. À nouveau, il ne s'agit pas seulement de savoir, mais il s'agit d'avoir de la sagesse et puis d'être impliqué dans ce que nous faisons. Impliqué spirituellement, émotionnellement. Ces fêtes sont des fêtes du cœur. Nous les observons, nous les célébrons parce que nous y croyons. Nous croyons à leur profond symbolisme. Pas seulement parce que Dieu nous dit « observe ces fêtes ». Pas seulement pour l'obéissance. Nous devrions avoir passé le stade de l'obéissance. Sommes-nous toujours disposés à être à l'écoute, à souhaiter de tout cœur nous enrichir spirituellement? Vous savez, ce qui est formidable avec ce livre que nous avons, que nous étudions, la parole de Dieu, c'est que c'est un livre qui ne cesse de s'amplifier. Nous lisons des passages que nous avons lus des quantités de fois et nous trouvons quelque chose de nouveau dans ces passages. J'espère que c'est ce qui se passe pour vous. Parce que ce livre s'élargit. La connaissance s'élargit. Et c'est ça qui est formidable. Proverbe chapitre 1 et le verset 2. Proverbe chapitre 1 et le verset 2. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Cela s'applique à nous, pas à quelqu'un d'autre. Et même si nous sommes dans l'Église depuis des années, cela s'adresse toujours à nous, pour connaître la sagesse. Est-ce que vous pensez que vous avez assez de sagesse maintenant? Je ne pense pas avoir assez de sagesse, je voudrais en avoir plus encore. Non, nous avons une certaine dose de sagesse, oui, mais nous pouvons toujours en avoir plus. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Nous avons toujours besoin de cela, frères et sœurs. Pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, que le sage écoute. Le sage ne se dit pas « Ah, je connais, déjà passé par là, c'est pas nouveau pour moi, je connais ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà vu ça ». Non, le sage écoute, il augmentera son savoir s'il écoute. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Nous devons approcher les fêtes divines avec une certaine attitude, frères et sœurs. En somme, avoir soif d'avoir plus. Soif d'être davantage d'accord avec notre Père Céleste. C'est pour cela que j'ai dit que ces fêtes sont aussi celles du cœur. Nos cœurs doivent être pleinement impliqués. Il est trop facile d'agir par routine, sans vraiment réfléchir. Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Je parlais du cœur, mais le cœur est pleinement impliqué dans ces choses. De tout ton cœur. Avec une sincérité totale. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que cela nous décrit? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Et vous et moi, nous tous, nous autres humains, nous avons tous un peu de cette propre justice. Souvent, nous pensons que nous sommes sages alors que nous ne sommes pas tout à fait sages. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Il faut faire des recherches pour comprendre. Cela requiert des efforts, cela ne vient pas tout seul. Proverbe chapitre 28, verset 5. Proverbe 28, il y a tellement de bonnes choses dans les proverbes. Proverbe chapitre 28 et le verset 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Cherchent. Nous devons chercher l'Éternel. C'est proactif. Il y a certaines choses dont la compréhension requiert un miracle. Je veux parler des choses spirituelles. Luc chapitre 24, verset 44. Luc chapitre 24 et le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est un miracle. Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement, qui par une certaine logique humaine. Si nous produisons quelques efforts, automatiquement nous allons accéder à cette sagesse. Non, c'était quelque chose que Christ a dû faire pour eux. Il a dû leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous et moi, quand Dieu nous a appelés, Eh bien, nous étions surexcités par cette connaissance, par ce savoir. Et nous essayions de le partager avec le restant de la famille. Et ça a provoqué des dégâts, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'ouvrait pas leur esprit. Je me souviens avoir eu des discussions avec ma mère. Et c'était ce que je lui disais, ça rentrait par une oreille et ça ressortait par l'autre, mais il n'y avait rien qui se passait entre les deux oreilles. Dans le cerveau, c'était pas enregistré. Elle ne comprenait pas ce que je voulais dire. Pour moi, j'étais cinglé. Et nous savons cela parce que cela requiert un miracle. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses, tout comme le Saint-Esprit nous aide à comprendre la signification de ces fêtes. Nous devons souhaiter que notre Père Céleste illumine littéralement notre cœur, n'est-ce pas? En fait, c'est ce qu'a précisé Paul dans son épître aux Éphésiens. Aux Éphésiens qui se trouvaient dans une ville plongée dans l'idolâtrie, avec le temple de Diane, l'une des sept merveilles de l'ancien monde, où les gens avaient la tête ailleurs, au mauvais endroit. Alors que dans cette même ville, Dieu édifiait la plus grande merveille du monde, édifiant son temple spirituel, parce qu'il avait des membres là. C'était cela la plus grande merveille du monde, son Église. C'est toujours le cas d'ailleurs. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Éphésiens chapitre 1 et le verset 17. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Regardez cette expression, qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est ce que Paul souhaitait aux Éphésiens. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, à son appel, pardon, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Est-ce que nous souhaitons que Dieu illumine les yeux de notre cœur, comme Paul souhaitait que ce soit le cas pour les membres à Éphèse? Paul, dans son épître aux Colossiens, parle d'un mystère caché de tout temps. Les fêtes de l'Éternel font partie de ce mystère caché de tout temps. Leur signification a échappé à l'humanité pendant des siècles. Et cela continue d'être le cas, sauf pour les appelés. Monsieur Armstrong s'est un jour rendu compte qu'il fallait observer ces fêtes. Pendant plusieurs années, lui et sa femme les ont observées sans en comprendre le sens. Ils savaient simplement qu'ils devaient le faire, mais ils ne savaient pas pourquoi, mais ils ont obéi, ils ont observé ces fêtes. Puis un jour, plusieurs années plus tard, Dieu leur a révélé leur profond symbolisme, leur signification. Et il nous disait souvent qu'avant de comprendre les voies de l'Éternel, nous devons commencer par obéir. La compréhension vient ensuite. Ces fêtes, sommes-nous certains d'en comprendre pleinement la signification, le symbolisme? Colossiens chapitre 1, verset 26. Colossiens chapitre 1 et le verset 26. J'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Vous savez, tout à l'heure, je vous posais la question, est-ce que vous pensez avoir beaucoup reçu? Nous avons beaucoup reçu. Ce mystère, nous le comprenons, vous et moi, si le Saint-Esprit est en vous. Nous devons nous assurer que cette compréhension n'est pas superficielle. Nous faisons partie d'un groupe très privilégié. En sommes-nous conscients? En sommes-nous reconnaissants à notre Père Céleste? 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5 et le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce que nous savons de ces fêtes doit nous guider vers la sagesse. Vous ne pouvez pas être sage si vous ne savez rien et si vous ne comprenez rien. Dans un premier temps, nous devons tous nous assurer que, premièrement, nous sommes informés et, deuxièmement, que nous comprenons. Ces deux conditions remplies, nous devons ensuite acquérir la sagesse. La sagesse n'est pas nécessairement un don que certaines personnes ont naturellement. Quand Dieu donna la sagesse à Salomon, il lui donna une intelligence hors pair pour les choses physiques. Et dans notre cas, il est question d'une sagesse spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il s'agit d'un miracle qui a eu lieu dans notre vie, qui a encore lieu dans notre vie. Est-ce que nous apprécions ces choses, cette connaissance? Verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. J'aime cette phrase, c'est spirituellement qu'on en juge. Ça devrait s'appliquer tellement à nous. Est-ce spirituellement que nous abordons les fêtes de l'Éternel? Pour les appeler, ce devrait être spirituellement qu'on en juge, n'est-ce pas? Mais cette sagesse, nous devons la rechercher. 1 Roi chapitre 3, verset 7. 1 Roi chapitre 3, verset 7. Est-ce que nous avons la même attitude que l'Ecclésiaste, que Salomon, face à ces fêtes à nouveau? Évitons la routine. Abordons ces jours qui viennent, ces fêtes spéciales qui sont très significatives dans le plan de Dieu. Notre Père Céleste est surexcité par la signification de ces fêtes. Son Fils Jésus-Christ aussi. Tous deux aiment ces fêtes. Ils savent ce que cela représente. C'est un plan extraordinaire, un plan inimaginablement sage, un plan formidable. Et ils sont impliqués tous les deux à fond dans ce plan. Le sommes-nous? 1 Roi chapitre 3, verset 7. Salomon se rendait compte que il ne devait pas être sage à ses propres yeux. Bon, je pense que vers la fin de sa vie, il a pensé. Il commençait à penser qu'il était sage. Il est devenu sage à ses propres yeux. Mais au début, le jeune Salomon a posé les bonnes questions. Il a cherché ce qui était nécessaire. 1 Roi chapitre 3, verset 7. « Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Salomon a demandé à l'Éternel un cœur intelligent pour juger le peuple et pour discerner le bien et le mal. Nous avons besoin de ce genre de cœur aussi, pour discerner le bien et le mal. Le discernement est un autre mot pour sagesse. La sagesse sous-entend le discernement. Mais pour avoir le discernement, et plus précisément un discernement spirituel, par où commencer? Comme je l'évoquais il y a quelques instants, nous devons commencer par craindre l'Éternel. Psaume 111, verset 10. Je le citerai simplement, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » La crainte de l'Éternel, mais il s'agit d'une crainte respectueuse, plutôt d'un profond respect. Nous devons craindre l'Éternel de la bonne façon. Nous avons vu que l'obéissance précède la compréhension. Nous devons commencer par craindre l'Éternel et pas les hommes. Craindre l'Éternel. Pour ce faire, nous devons cesser de nous fier à notre propre raisonnement, à nos propres raisonnements. Ésaïe chapitre 5, verset 21. Ésaïe chapitre 5 et le verset 21. Malheur, regardez ce mot, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Il n'est pas écrit, oh, dommage, ou c'est négatif. Non, c'est un mot fort. Malheur, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Ouh. Est-ce que cela s'applique à moi? Est-ce que cela s'applique à vous? Nous avons lu il y a quelques minutes dans Proverbes 3, 5, 8 que nous ne devons pas nous fier à notre propre sagesse. Dieu nous répète ici par la bouche du prophète Ésaïe que nous ne devons pas nous prendre pour des sages et nous croire intelligents. Romains chapitre 1, verset 22. Romains chapitre 1 et le verset 22. Paul parle ici des intellectuels typiques, des gens qui ont une connaissance, et je ne dis pas ici que je suis contre l'éducation, bien au-delà, c'est pas du tout cela, mais il y a des gens éduqués qui ont une certaine connaissance, mais qui ont la mauvaise sorte de connaissance, et qui se prennent réellement pour quelqu'un alors qu'ils ne sont rien. Et c'est de cela que Paul veut parler ici. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible, du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Le monde est plein de gens qui se croient sages. Et plus sage que Dieu. Voilà ce que Dieu a à dire à propos de ces pseudo-sages qui ne sont en fait que des insensés. Versets 18 à 21. Versets 18 à 21. Revenons un peu en arrière, là, dans ce passage. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il est question ici d'individus qui savent pertinemment ce qu'il en est, mais qui retiennent cette vérité captive. Parce qu'on peut connaître de Dieu et manifeste pour eux Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Quelle est l'attitude que nous avons face à ces fêtes qui viennent? Est-ce que nous allons nous y préparer? Est-ce que nous allons les méditer leur signification? Est-ce que nous allons demander à l'Éternel de les observer comme jamais auparavant, avec plus de profondeur cette année? Je l'espère. 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ainsi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 18. Car la prédication de la croix, et incidemment le mot grec traduit ici par croix, comme dans bien d'autres passages, est storos, mot qui signifie plutôt poteau et non croix. La prédication de la croix est une folie, ou du poteau est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il joue avec les mots. La prédication n'est pas une folie, mais il parle ici de manière imagée, un peu moqueuse, par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Ah, les Grecs étaient forts pour philosopher. Ils cherchaient la sagesse, mais ils ne cherchaient pas la sagesse de Dieu, ils cherchaient la sagesse dans leur propre raisonnement humain. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, vous et moi. Tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. À nouveau, il joue sur les mots, Dieu n'est pas fou. Mais la folie de Dieu, c'est par comparaison, n'est-ce pas? La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il n'est pas écrit qu'il n'y en a aucun, mais il n'y en a pas beaucoup. Faut noter cela, quand même. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Intéressant, n'est-ce pas? Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pour acquérir la vraie sagesse, celle de Dieu, nous devons étudier la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, verset 4. 2 Timothée, chapitre 3 et le verset 4. Avec quoi est-ce que nous nous remplissons la tête? Vous savez, il y a toutes sortes de distractions de nos jours. Ah, c'est facile d'être distrait, de s'égarer. Bon, notre attention est attirée par toutes sortes de choses tous les jours. 2 Timothée chapitre 3 verset 14. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Et incidemment, quand Paul parlait à Timothée ici, ces saintes lettres, c'était l'Ancien Testament, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc la foi en Jésus-Christ est ajoutée à ces choses, elle vient apporter une dimension nouvelle. Et cette sagesse, nous devons la demander à Dieu aussi. Nous devons la demander à Dieu. Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques chapitre 1 et le verset 5. Elle ne va pas venir toute seule comme une sorte d'osmose. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. À nouveau, notre cœur a besoin d'être impliqué dans tout cela. Nous devons être impliqués émotionnellement, spirituellement. Tout notre cœur doit être impliqué dans ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que je vais observer ces fêtes? Quel sens elles vont avoir pour moi cette année? Est-ce qu'elles seront plus profondes que d'habitude? Je le souhaite, frères et sœurs. Jacques chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ah, quelqu'un d'entre vous, je pense que ça s'applique à nous tous, n'est-ce pas? Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, C'est une promesse, elle lui sera donnée, il suffit de demander. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Cela me rappelle Jean 16, 13, où il est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. » La sagesse est une qualité divine, spirituelle, que Dieu veut que nous développions. Mais nous devons avoir cette sagesse pour bien observer ces faits. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Éphésiens chapitre 5 et le verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et cela est impliqué dans la pensée que j'essaye de communiquer à chacun de vous aujourd'hui. L'attitude, les pensées que nous devons avoir face à ces faits que nous allons observer. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous devons être à la même page, sur le même plan, comprendre les pensées de notre Père Céleste et de son Fils. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. De tout votre cœur, à nouveau, tout votre cœur. On est impliqué. On ne fait pas des choses par routine seulement. Célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Paul disait aussi dans Colossiens 4, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Avec sagesse, nous avons besoin de sagesse. Nous avons vu ensemble plusieurs éléments nécessaires à une célébration spirituelle des fêtes automnales, et en fait de toutes les fêtes de l'Éternel. Retirerons-nous le maximum de bénéfices de ces célébrations? Je voudrais finir par un passage dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 2. Et lorsque nous lisons ces lignes, posons-nous la question, est-ce que cela me décrit? À nouveau, c'est cela qu'il faut faire. Souvent, lorsque nous lisons quelque chose dans la parole divine, posons-nous la question, est-ce que cela me décrit? Surtout lorsqu'il est question d'une description de la justice, de l'amour, des enfants de Dieu. Est-ce que cela me décrit? Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Est-ce que cela nous décrit, frères et sœurs? Et bien sûr, ici, il y a de Paul qui se décrit lui-même. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, sous-entendu de cette sagesse qui était partout autour d'eux, avec les Grecs qui ne cessaient de philosopher et de discuter sur toutes sortes de choses. » Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Nous avons lu ce passage avant. Verset 15, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Qui a connu la pensée du Seigneur ? Avant que ces fêtes ne viennent, posons-nous la question, est-ce que j'ai connu la pensée du Seigneur ? Or, nous avons la pensée de Christ, à nouveau, cela doit nous décrire, vous et moi. Voilà le genre d'attitude dont nous avons besoin pour célébrer ces fêtes avec notre Père Céleste, en partageant ses pensées, en appréciant tout ce qu'il a fait et fait pour nous et pour l'humanité. Ces fêtes devraient être pour nous des célébrations du cœur, et dans lesquelles nous avons besoin d'être totalement impliqués. Je vous souhaite à tous une bonne préparation pour celle-ci, puisse Dieu vous bénir abondamment, surtout spirituellement, et puisse Christ nous dire un jour à tous, c'est bon, bon et fidèle serviteur, vous avez été fidèle en peu de choses, je vous confierai beaucoup. Entrez dans la joie de votre maître. Au revoir, mes amis. Bon courage et à bientôt.